Alors Étienne, on revient dans les années 1200. Dans l'épisode précédent, on avait parlé de cette duchesse Constance, une femme fière, on va dire, dans l'histoire de la Bretagne. On y revient un peu. On sait qu'elle est la veuve de Geoffroy Plantagenet, n'est-ce pas ?
C'est ça. C'est une femme fière, certainement intelligente, courageuse. Et elle a entrepris, en tout cas, de protéger son fils Arthur, un enfant posthume. Elle a entrepris de le protéger de façon à ce qu'il hérite bien de la couronne de Bretagne, qui est normalement d'ailleurs son dû, hein, puisqu'il est l'héritier logique de cette couronne de Bretagne, mais également pour qu'il puisse profiter d'une partie de l'héritage des Plantagenets, puisque c'est le neveu de Richard Cœur de Lion, et il n'y a pas de raison que le jeune Arthur de Bretagne, lorsqu'il sera un seigneur un peu plus puissant, n'ait pas un rôle important à jouer. Et c'est vrai que Constance joue un rôle très, très sérieux, très courageux. Elle protège beaucoup son fils. Elle le prépare également à exercer le pouvoir. C'est une grande princesse de l'époque.
Tu as parlé de Richard Cœur de Lion. On peut peut-être rapidement brosser un peu le tableau de la Bretagne à cette époque ?
Oui, donc à cette époque-là, le petit duché de Bretagne est intégré un peu à ce monde assez vaste des Plantagenets qui part d'Angleterre, qui descend jusqu'aux Pyrénées en passant par le Poitou, l'Aquitaine, la Normandie aussi, l'Anjou. Et toutes ces possessions font que finalement la Bretagne apparaît petite dedans, mais en même temps, dans la mesure où le duc de Bretagne est lui-même un Plantagenet, hein, comme je le disais, c'est le neveu de Richard Cœur de Lion, hein, c'est le petit-fils d'Henri II, le grand roi Plantagenet, eh bien il a un rôle à jouer et il est pratiquement héritier de la couronne d'Angleterre, ce qui fait que finalement cette Bretagne, elle pourrait s'élargir énormément, puisqu'il n'y aurait rien d'illogique à ce que l'on voit le duc de Bretagne partir vers l'Aquitaine, vers l'Anjou, vers le Poitou, pour revendiquer un certain nombre de droits qui sont légitimement les siens.
Oui. Et pourtant, il y a quand même un gros contentieux, on va dire, une grande opposition entre Constance et Richard Cœur de Lion.
Oui. Richard Cœur de Lion, lorsqu'il revient de la croisade, durcit un peu sa position vis-à-vis de Constance. Il l'a fait même enlever par son mari, ce mari qui lui a été imposé, Ranulf de Chester. On peut peut-être dire un mot.
Absolument. Ça paraît un personnage qu'on ne connaît pas trop dans l'histoire.
C'est un personnage qu'on connaît peu. Ranulf de Chester est l'un des principaux seigneurs anglais. C'est un vassal du roi d'Angleterre. Il est très riche. Hein. Il est très très riche. Il est possessionné. Il est jeune par contre. Hein. Il a une dizaine d'années de moins que Constance. Il n'y aura pas consommation de ce mariage, hein, puisque de toute façon c'est un mariage qui a été imposé à la duchesse de façon à ce qu'elle soit contrôlée, de façon à ce que ses enfants également soient contrôlés. Et ce Ranulf de Chester ne vit pas avec Constance. Et Constance vit indépendamment de lui, vit longtemps à Nantes. Et à la demande du roi d'Angleterre, finalement, eh bien, il enlève sa femme et il la remet comme prisonnière au roi d'Angleterre, ce qui est quand même assez particulier. Et c'est ce qui explique également que dès que Richard Cœur de Lion va mourir en 1199, Constance, qui a à l'époque, je crois, 38 ans, divorce très rapidement et le pape accorde évidemment la fin de cette union qui n'avait absolument rien d'acceptable.
Ouais. On parle de l'opposition un peu contentieux Bretagne-Angleterre, mais il ne faut pas oublier la France qui est présente aussi. Hein.
Mais non, il ne faut pas oublier la France. Alors Nantes commence à jouer effectivement un rôle un petit peu central dans tout ça parce que c'est quand même souvent la résidence ducale. Et le roi de France, évidemment, a envie de contrôler toute cette région. C'est Philippe Auguste, hein, c'est le grand Philippe Auguste. Alors, c'est pas encore le très grand Philippe Auguste. Hein, il faudra attendre la bataille de Bouvines, hein, et donc les années 1210-1220, pour que le roi de France soit un très très grand roi. Mais c'est déjà quand même quelqu'un qui tient son royaume d'une main de fer. Il essaye donc d'encourager, finalement, le jeune Arthur de Bretagne à s'opposer à son oncle, à s'opposer d'abord à Richard Cœur de Lion, et ensuite à la mort de Richard Cœur de Lion, à s'opposer à Jean sans Terre, et à essayer de faire valoir ses droits à la couronne d'Angleterre. Philippe Auguste est un malin. Il reçoit d'ailleurs Arthur longuement à la cour de France, et Arthur est finalement élevé comme un jeune prince, je dirais, francophone. Hein, mais cela n'empêche pas que derrière, il y a du calcul, évidemment.
Oui. Alors, Nantes, capitale ducale, forcément, ville visée, convoitée.
Tout à fait. Une ville visée, une ville convoitée, c'est exactement le mot. D'abord parce qu'il y a quand même un certain développement économique, ce n'est pas encore une très grande ville, mais aussi et surtout parce que c'est la porte, hein, c'est la porte sur l'estuaire de la Loire. Et puis à partir de Nantes également, si on peut contrôler l'ensemble de la côte bretonne, c'est très bien, puisque les Anglais cherchent également à avoir une très très forte influence sur la Bretagne parce que c'est une base de débarquement extraordinaire pour eux. Donc dans l'idée de conflit guerrier, c'est important. Et puis il y a également l'économie, évidemment l'axe ligérien. Et donc le port de Nantes est également convoité.
Cette duchesse, elle a plusieurs enfants ?
Cette duchesse a plusieurs enfants, effectivement. Elle va se remarier avec Guy de Thouars, qui est un vassal, c'est un capétien, c'est un vassal des Capétiens. Et elle va avoir encore deux filles, dont une, la petite Alix. Alix, qui est donc la demi-sœur d'Arthur, ne va jouer un rôle que parce que Arthur va mourir assassiné donc à l'âge de 16 ans et demi. Et c'est cette petite Alix qui, en se mariant avec un Capétien, va donner naissance à Jean Ier et au successeur ensuite.
Alors revenons quand même un peu sur Arthur, Étienne, personnage important quand même.
Oui, on ne peut pas laisser partir Arthur comme ça. Arthur de Bretagne, donc, essaye de faire valoir ses droits. Et comme sa grand-mère, la terrible et remarquable Aliénor d'Aquitaine, tient à tout prix à ce que ce soit son fils Jean sans Terre qui soit le roi d'Angleterre, alors qu'en fait, les droits d'Arthur sont légitimes, hein, puisque le père d'Arthur était aîné par rapport à Jean sans Terre. Et donc, Arthur aurait très bien pu ou même dû être roi d'Angleterre. Eh bien, il essaye donc de capturer sa grand-mère, et puis finalement, lors de ce siège, c'est lui qui est fait prisonnier, par son oncle, donc par Jean sans Terre. Jean sans Terre l'emmène à Rouen, le garde de nombreux mois comme prisonnier. La duchesse Constance est morte à ce moment-là, mais la vieille, je dirais la vieille, la très âgée, Aliénor d'Aquitaine vit toujours, elle va mourir à peu près à 80 ans, et elle ne fait rien pour faire libérer son petit-fils.
Triste destinée, hein,
triste destinée,
ce jeune homme, hein, qui ne reviendra plus jamais.
Voilà, il va être assassiné, ou par Jean sans Terre, ou pour Jean sans Terre, on peut plutôt penser qu'il a fait faire ça par ses séides. Mais le roi de France, Philippe Auguste également, ne lève pas le petit doigt pour sauver le petit duc de Bretagne, alors qu'il est un peu responsable finalement du fait qu'il a été capturé.
Oui, on peut peut-être expliquer. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu être sauvé ? Tu as évoqué par sa grand-mère déjà. Et puis, est-ce que le roi de France, Philippe Auguste, avait les moyens ou avait envie de d'intervenir ?
Bien sûr, il avait les moyens d'intervenir, mais il n'a pas voulu s'en mêler. Il a laissé un peu les Plantagenets se débrouiller entre eux. De toute façon, si le duc de Bretagne avait pris le pouvoir en même temps à Londres, ça aurait fait un roi d'Angleterre possédant la Bretagne. Donc lui, ce qu'il voulait surtout, c'était un peu jouer sa carte, semer un peu la cisanie là-dedans, parce que les moyens, il les avait. En 1204, il va récupérer Château-Gaillard, ce qui n'est pas une petite bataille. En 1206, il va virer les Anglais de Nantes, Philippe Auguste. Donc il avait largement les moyens. Il ne l'a pas fait. Je pense que c'était du calcul politique.
Ouais, très bien.